Bonjour Stéphane.
Bonjour Franck. Donc aujourd'hui, j'ai lu un livre qui est un peu un livre d'information, puisque c'est un livre d'historien, qui s'appelle Alain Corbin, que j'ai découvert très récemment. Donc c'est une sorte de livre d'histoire, mais ce que j'aime bien, ou en tout cas ce qui m'a intéressé dans ce que j'ai entendu au sujet d'Alain Corbin et ce qui m'a fait lire ce livre, c'est qu'il a un angle, et son angle souvent c'est d'aller retrouver avec les sources comment dans le passé les gens ne savaient pas certaines choses. Et ça, je trouve ça vraiment... C'est une idée à laquelle j'ai souvent pensé. C'est comment on pensait au XIVe siècle, parce qu'on avait quelle représentation du monde, des autres, de soi-même, de tout ça. Et qu'est-ce que ça... Même si on a des livres où on comprend ce que les gens écrivent, on ne sait pas vraiment... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne pense pas souvent... quand je lis des livres anciens, dans quel monde vivait cet homme? Et voilà, et cet historien, c'est la question qui se pose. Et donc le livre s'appelle « Le monde retrouvé » de Louis-François Pinagot, sur les traces d'un inconnu, 1798-1876.
D'accord.
Et donc ce travail de recherche qu'il a fait, c'est qu'il a pris quelqu'un d'aussi inconnu que possible. Il a fait un peu le contre-pied de l'histoire habituelle où on suit l'histoire de gens exceptionnels, des rois, des militaires, des ecclésiastiques, des scientifiques. Et Louis-François Pinagot, il n'avait rien de spécial. Et donc il a cherché dans les archives régionales et il a trouvé qu'à Origny-le-Butin, vivait un savetier qui a passé toute sa vie dans un rayon de 30 km et qui a passé l'essentiel du temps dans un rayon de 2 km et qui n'a rien fait de spécial si ce n'est faire des sabots, avoir des enfants et mourir.
Et tout ça sans autorisation de sortie.
Et tout ça sans... Ah, mais alors justement, non. Une des choses qui est très intéressante dans ce livre, c'est de voir à quel point, même dans la campagne la plus perdue et la plus reculée, il y avait énormément de réglementations qui étaient, dont le garde champêtre, par exemple, devait veiller ou des choses comme ça. Par exemple, toute l'histoire autour de cet homme qui n'a laissé aucune trace, lui-même personnellement, c'est à travers des archives autour de lui, et quelques-unes sur justement toute la bureaucratie française qui existait déjà, même à Origny-le-Butin, au fin fond de la campagne, il y avait une organisation très sophistiquée de propriété. Et donc le père de Louis-François était ce qu'on appelait voiturier, c'est-à-dire qu'il faisait du transport de marchandises, principalement de bois, puisqu'il s'était installé à côté d'une forêt. Et donc il y avait une voiture avec des chevaux, et il transportait du bois jusqu'à La Ferrière, qui est la grande ville qui est à 10 km. Et puis il revenait. On a des traces de lui parce que en fait il truandait un petit peu. Il laissait pâturer ses chevaux dans des endroits où il n'avait pas le droit. Et donc on pouvait pas laisser les chevaux aller brouter de l'herbe où ils avaient envie. Chaque carré d'herbe, c'était l'époque où le travail il venait de la force musculaire. Il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas de pétrole. Et donc tout ce qui poussait avait une valeur. Parce qu'il fallait l'entretenir, il fallait peut-être le récolter, je ne sais pas. Et donc avec ses deux chevaux, alors c'est marrant de voir les comptes rendus où il dit ils se sont échappés, j'étais justement en train de les chercher. Et le juge qui lui dit, bon, ça fait la 10e fois, on ne croit plus vraiment.
Ah oui, c'est ça.
Et il notait que contre, Louis-François, lui, il n'a pas eu tous ses ennuis avec la marée chaussée de l'époque, puisqu'il n'a pas laissé de traces où il s'est une fois quand il était jeune et qu'il aidait son père. Les chevaux se sont égarés dans un champ.
Dans un champ bien garni.
Voilà. Et aussi, il vivait près de la forêt, puisqu'il était sabotier. Et il y avait aussi toute une réglementation sur quel type de bois on avait le droit de ramasser, quand, les bûcherons, qu'est-ce qu'ils avaient le droit de couper.
Ce qui est toujours vrai, d'ailleurs, ça.
Ce qui est toujours vrai, mais c'était déjà vrai à l'époque. Mmh. C'est ça qui m'a marqué. Okay. C'est que même dans ces endroits très reculés de la campagne où il se passait pas grand-chose, il y avait déjà une administration très bureaucratique. Mmh.
Mais d'après les dates que vous m'aviez données, vous en étiez déjà dans une période napoléonienne ou post-napoléonienne, donc où tout avait été bien réglementé. Quand même.
C'est ça. C'est Napoléon était. Mais d'après ce que j'ai lu, les parents et les grands-parents.
Ah, d'accord. C'était déjà vrai.
C'était déjà vrai, ouais. Alors, dans les petits pays comme ça, ils s'arrangeaient un peu quand même. Mm. Mais c'était vraiment, ils s'arrangeaient parce qu'ils étaient cousins, ils se rendaient des services, mais ils devaient faire attention parce que plus haut dans la hiérarchie, il fallait pas se faire attraper.
C'est ça. C'est comme,
comme aujourd'hui.
Exactement. Comme quand on fait de la goutte, comme par là cette année, les fruits donnent pas grand chose, quoi.
C'est dommage.
C'est dommage.
Et donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est voilà, cette exploration de quoi a été faite la vie d'un homme dont on ne sait rien et qui vit dans un rayon de 2 km carrés. Et on le sait à travers les registres de baptême. Donc à travers les registres de baptême, on a un petit peu l'arbre généalogique, qui étaient ses parents, qui étaient ses enfants, qui s'est marié avec qui, etc. On a des registres d'impôts qui disent qui travaille, qui fait quel travail, etc. Et notamment, ça explique à quel point c'était un milieu très pauvre, puisque lui, pendant une bonne partie de sa vie, il a été enregistré à l'état civil comme indigent. Mmh. C'est-à-dire qu'avec son travail de sabotier, il gagnait pas assez pour être considéré comme pouvant subvenir à ses besoins. Et une autre chose qui m'a touché, c'est tout un chapitre sur les tentatives des propriétaires des alentours pour essayer de donner un peu de cachet à leur pays. Et donc il y avait une vieille tombe, une vieille pierre, une croix un peu délabrée, et ils faisaient des travaux pour remettre ça en état. Il y avait aussi une source qu'ils ont essayé de rendre un peu populaire en publiant des petits recueils, des petites notes publicitaires pour parler des vertus médicinales, de l'eau, de la source ferrugineuse qui est bonne. Alors la liste pour les rhumatismes, pour les maux de tête, pour les problèmes sanguins, pour les problèmes pulmonaires, pour les problèmes etc. etc. Mais finalement, même ces tentatives de faire exister un peu le pays échouent parce que la source est tellement petite qu'on ne peut pas accueillir grand monde finalement. Et puis les monuments votifs comme les croix ou les anciennes tombes qu'on essaye de faire, auxquelles on essaye toujours d'attacher des légendes, Charlemagne serait passé par là.
Oui, oui, oui. Pour attirer du monde.
C'est ça. Mais en fait, c'est des objets tellement communs, et il y en avait dans tellement de villages des objets comme ça, que finalement, ça marchait pas tellement. Et donc, ces pays restaient dans une espèce d'obscurité où la vie était la même tous les jours. Et c'est seulement les grands mouvements qui étaient perçus, par exemple les guerres napoléoniennes ou les périodes de famine où là, la misère s'accentuait.
Oui.
Et puis après, ça s'arrangeait.
Et créer des mouvements ou pas du tout?
Non, c'était vraiment trop petit, puisque le village où il habite, je crois, il y a moins de 100 personnes qui vivent là.
D'accord.
Et ça fait pas un mou... C'est... Enfin, on fait... Et presque, il y a quelques familles, en fait, qui vivent et se connaissent, et c'est-à-dire leur vie quotidienne. Bon, évidemment, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de... Donc c'est la veillée, c'est lire un peu les pamphlets des colporteurs qui passent à travers le village, et les gazettes. C'est les rencontres quand ils vont travailler. En fait, ils ont... Ça aussi, c'est une autre chose qui me fascine, c'est quand le monde est pauvre, les êtres humains, ils sont capables de vivre comme avec une loupe, c'est-à-dire les plus petits détails deviennent des choses importantes qui peuvent organiser le quotidien, la vie, etc. Et le bonjour du matin avec la mère Michu de la troisième rue devient un événement de la journée.
C'est ça.
Et tiens, aujourd'hui, elle était de mauvaise humeur.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et en fait, c'était vraiment ça, cette vie. Et c'était intéressant de voir comment le monde change très doucement pour lui. C'est-à-dire que le monde a changé puisque, par exemple, la forêt était mieux administrée, mieux exploitée, il y avait une bureaucratie qui s'est agrandie, il y a eu peut-être une presse qui a circulé plus vers la fin de sa vie que vers le début de sa vie. Mais tout ça, c'est avec des changements imperceptibles. Et voilà. Donc c'est un... Je vous engage à lire ce livre.
Oui, je suis très attiré, oui.
Parce que c'est vraiment intéressant de voir à travers... par exemple, ce que j'ai appris, c'est... Il y avait des foires, qui, pas des grosses foires, mais il y a des foires un peu autour de son village d'Origny-le-Butin, et ils expliquaient à l'époque de sa vie, il y en avait une vingtaine qui étaient accessibles à pied, des fois en marchant un peu longtemps, mais et qui était une des rares choses qui permettait d'avoir qu'il se passe quelque chose. Donc aller à la foire, boire un canon, éventuellement essayer de vendre un truc, des sabots, faire une transaction et puis revenir à la maison. Et ça, bon, évidemment, ça existe plus du tout. Enfin, ça existe un peu sous la forme de peut-être comment on appelle ça, les marchés aux antiquités dans les campagnes,
les vides-greniers.
Les vides-greniers, voilà.
Oui. Bon, il y a aussi toujours des ventes d'animaux, ainsi de suite.
Ça existe toujours.
Oui, toujours, oui. Ouais.
Donc voilà, c'est dans ce... Aussi, Louis-François était illettré, il a jamais appris, puisque visiblement quand il était jeune, il n'y avait pas vraiment d'école encore dans son village. Et il devait marcher 10 km pour la prochaine école, et visiblement il n'a pas marché tous les jours jusque là-bas.
Oui, c'est ça. Et qui devait être payante en plus.
Oui, qui était payante en plus, c'est ça, à l'époque. Et il y a toute l'histoire aussi de l'école d'Origny-le-Butin, c'est-à-dire pendant très longtemps, les quelques familles qui exploitaient les environs, qui étaient soit des bûcherons, soit des cultivateurs, ils ont tous refusé solidairement de payer et le salaire d'un instituteur et l'entretien d'une salle de classe.
C'est ça. Et de l'appartement.
Voilà, c'est ça. Ils ne voulaient pas du tout payer, ils trouvaient que ça ne servait à rien.
Bien sûr.
Et donc, on peut... c'est ce que disait Alain Corbin. On peut imaginer qu'à l'époque de Louis-François, être analphabète dans son village, ce n'était pas vraiment un handicap. C'était plus d'être comme tout le monde.
C'est ça.
Par contre, deux de ses enfants ont réussi à aller à l'école. Il y a des traces de ça. Et donc, ils ont appris à lire et à écrire. Ça veut dire que petit à petit, il y a eu quand même une alphabétisation, même de ces villages, qui a progressé. Ouais.
Mais même par l'intermédiaire du prêtre du village, j'imagine qu'il y avait un prêtre dans le village.
Oui, il y avait, alors il y avait une église, mais qui restait désaffectée pendant assez longtemps.
Ah, d'accord, ok. Ah, bah oui, oui. Hmm. Bah, suite à la Révolution, peut-être.
Ouais, suite à la Révolution, et c'était vraiment... c'était loin de tout, ce village, c'est un hameau de maison. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce voyage dans un pays lointain, qui est un petit pays, qui est un peu qui est pas très loin dans le passé, mais qui est dans le passé, et qui est un peu comme dans ces films où les héros sont miniaturisés et avec une seringue rentre dans le corps humain et regarde les globules rouges, les globules blancs. Et là, c'est un peu, il y a un peu cette idée-là où on va remplir toute une vie d'un hameau où il y a 10 maisons. Et on va voir comment dans 10 maisons, on peut faire une vie. Et en allant uniquement à la ferrière qui est à 2 km à pied et aussi l'autre à Belém, voilà, Belém, qui est un peu plus loin.
Belém, B-E-2-L-E, accent circonflexe, M.
Voilà, entre Belém et la ferrière, qui sont les deux villages à droite et à gauche d'Origny-le-Butin.
Et une grande forêt.
Et une grande forêt.
La forêt de Belém, d'ailleurs.
C'est ça. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce voyage dans un monde tout petit. Donc le titre, c'est « Le monde retrouvé de Louis-François Pinago sur les traces d'un inconnu, 1798-1876, par Alain Corbin. »
Bien.
Dont j'ai appris qu'il était un historien très célèbre à l'extérieur de la France.
Ah d'accord, ok. Eh bien, je vous remercie, Stéphane.
Avec grand plaisier.
Au prochain film, non, pas du tout.
Au prochain épisode.
Pour moi, c'est comme un film, ce que vous racontez.
Au revoir, Stéphane. À très bientôt.